des sept sacrements de l'Église, la communion eucharistique, ce qu'on appelle la première communion, mais la communion au corps du Christ, et le mariage sont les deux sacrements qui demandent le plus de préparation, voire même peut-être les deux seuls qui nécessitent une longue préparation, parce que les sacrements ne sont pas des diplômes. Et ce qu'on appelait naguère l'instruction religieuse n'est pas une formation diplômante. Les sacrements sont des dons de la grâce. Deux seuls, et la prêtrise alors ? Ben, c'est la synthèse des deux. C'est la célébration de la messe qui est d'une certaine façon mariée, unie aux soins du peuple de Dieu. Et le baptême des adultes, alors pourquoi c'est si long ? C'est pas leur baptême qui prend du temps. C'est encore une fois la préparation à la communion, à leur première communion. Même s'il est évident qu'il faudrait souvent mieux tenir compte de l'histoire de chacun. C'est un des problèmes de notre époque. Un des problèmes de notre époque, c'est de vouloir appliquer le même régime uniforme à tout le monde. La première lecture du livre d'Isaïe rappelle ce qu'est la règle d'or. Elle préfigure la règle d'or, elle dit « Donne à celui qui a faim ce que toi tu désires. » De pouvoir voir ce dont la personne a besoin, ce que toi tu désires, c'est la règle d'or. Et dans tant de domaines, y compris en liturgie, mercredi dernier, le pape à Kinshasa, 1 million de personnes, voilà une belle messe, 1 million de personnes, le pape, il a célébré avec le rite zaïrois, parfaitement catholique, c'est un des rites catholiques. J'aime bien, c'est assez dansant et chantant. Pour le Gloria, on danse tout autour de l'autel. Enfin, je vous le ferai un autre jour. Mais c'est le signe quand même qu'une diversité est possible en liturgie. Alors pourquoi est-ce que la communion eucharistique et le mariage ont besoin d'une longue préparation ? Et d'abord, pourquoi accordons-nous, nous dans l'Église, tant de place à la préparation ? Vous voyez, avec l'Avent, avant Noël, le Carême, c'est bientôt, c'est dans 15 jours, 3 semaines, avant Pâques. Ces temps forts de préparation qui font de l'année liturgique, mais pas seulement de l'année, de notre vie, une longue préparation à la rencontre de Dieu. Il faut d'abord dire que c'est la réalité de notre existence. C'est le propre de l'existence humaine de passer du temps à se préparer. Et vous pouvez regarder, analyser, voir relire votre propre vie comme ça. Dans l'enfance, on se prépare à la vie sociale, à la vie collective. C'est ça le rôle de la famille, c'est de socialiser les enfants, leur apprendre à vivre en société. Ensuite, les études, c'est se préparer au travail. L'apprentissage capable de s'adapter, une certaine polyvalence, une culture générale. Ensuite, l'obéissance, elle nous prépare aux responsabilités, parce qu'on ne peut pas commander si on ne sait pas obéir. Et puis dans la vie adulte, on passe son temps à vivre ce mouvement, à acquérir et à se déposséder des biens de ce monde. Pour les parents, c'est très vrai avec l'arrivée des enfants, leur croissance et puis leur départ quand ils quittent la maison. De la même façon que dans nos métiers, nous engrangeons toutes sortes de compétences et d'expériences pour finalement tout quitter à la retraite. Et même jusqu'au départ de ce monde, pour la rencontre de Dieu. Pensez-y, le temps que nous passons dans la vie à se préparer. Et c'est très important dans l'Église, et y compris pour l'Église, parce que ça nous rappelle que sur un plan religieux, l'Église est un moyen. L'Église est un moyen et elle n'est pas une fin. C'est ainsi qu'elle s'est définie elle-même, l'Église. Au Concile Vatican II, dans la Constitution Lumen Gentium, le Christ est la lumière des peuples. Avant de nous demander d'être la lumière pour le monde, il est lui, je suis la lumière du monde. Eh bien, elle se définit, l'Église, comme le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Voilà ce qu'est l'Église, le signe et le moyen de l'union avec Dieu et de l'unité entre nous. L'Église est un signe et un moyen. Et c'est un signe magnifique. Magnifique quand il rayonne de la gloire de Dieu. Et c'est un moyen, très moyen parfois, pour ne pas dire pire, très moyen quand il se laisse prendre quand il devient trop humain. Nietzsche disait humain trop humain. L'Église parfois c'est moyen trop moyen. à se demander si tout moyen n'est pas condamné à une certaine médiocrité. L'Église a les extrêmes, l'Église bat des records de beauté quand elle montre le Seigneur, quand elle montre l'amour de Dieu, quand elle arrive à vivre de cet amour en elle-même. Et elle bat des records, disons, d'amertume, parfois comme un plat trop salé. Vous voyez la transition ? Le sel et la lumière. Le sel et la lumière sont des moyens. Le sel, c'était un moyen par le passé pour conserver. Et chaque fois, j'ai besoin de rappeler aux gens, ne vous étonnez pas si nous sommes très conservateurs. Alors même que le Christ est plutôt révolutionnaire. Un moyen dans le passé pour conserver, aujourd'hui, c'est surtout pour accommoder, pour relever le goût. Et la lumière, c'est un moyen pour éclairer, pour voir. Et c'est simplement par un effet de style qu'elle désigne Dieu lui-même. Il y a une très belle phrase de psaume qui dit « Dans ta lumière, nous voyons la lumière ». Et le Christ me dit « Je suis la lumière du monde » parce qu'il est le révélateur du Père, parce qu'il nous montre, il révèle qui est Dieu. Mais ni l'un ni l'autre, ni le sel, ni la lumière, ne sont des fins en soi. Le sel et la lumière sont des moyens. Et un moyen est bon quand il est accordé à sa finalité. L'Église est une merveille quand elle répond à sa mission de nous conduire à Dieu. Et c'est le rôle de la communion eucharistique, de la communion au corps du Christ, en recevant son corps, nous le recevons réellement. Le Christ vient et vit en nous. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Une demeure chez nous. Combien de temps reste-t-il ? J'ai eu ce dialogue étonnant, inattendu, avec une personne qui était venue pour se faire radier du registre de baptême. Très en pétard, il voulait faire annuler son baptême. Je lui ai dit, nous ne pouvons pas effacer ce qui a été célébré. Nous ne pouvons pas effacer l'histoire. Tout au plus, nous pourrons écrire que vous apostasiez. C'est votre liberté. Mais, je lui ai demandé, vous avez fait votre première communion ? Oui. Vous en avez même fait peut-être beaucoup d'autres après ? Oui. Vous êtes sûr qu'il est reparti ? Vous êtes sûr qu'il n'est plus en vous ? Comment est-ce que vous pouvez expliquer autrement tous ces déchirements, ces contradictions, tout ce dont vous souffrez à l'intérieur de votre cœur ? La communion eucharistique, le mariage, la vie consacrée, nous engage pour toujours. Crée ce lien si fort, profond avec le Seigneur, jusqu'à ce que nous entrions librement et définitivement dans le bonheur éternel. Une femme qui s'était jamais mariée était tombée amoureuse d'un homme qui lui était divorcé. Divorcé, qui s'était marié devant Dieu dans l'église, qui était père de plusieurs enfants. Et elle était furieuse parce qu'ils ne peuvent pas se marier religieusement. Et elle sait que si elle l'épouse civilement, elle sort, disons-nous, elle sort de la communion des sacrements et elle ne peut plus communier. Elle non plus, ni lui ni elle. Et c'est un choix terrible, crucial, cornélien. C'est vraiment difficile. Et nous avons cherché ensemble, je lui dis, imaginez, prendre une image, imaginez simplement qu'il soit couvert de dettes, plutôt qu'il ait contracté une dette considérable, un engagement énorme, vertigineux là, pour le coup à rembourser. Est-ce que vous l'épousez quand même ? Il faut quand même y réfléchir par deux fois. Ou alors prenez une autre image. Imaginez qu'il vive avec un très vieux parent, qu'il est chez lui, ou avec une personne de sa famille, un parent très lourdement handicapé, dont il ne se séparera pas. Est-ce que vous l'épousez quand même ? Ce sont des choix difficiles, parfois terribles, à faire en conscience. en conscience, c'est-à-dire en connaissance de cause, et ensuite à assumer. Elle m'a demandé, mais si je l'épouse, que dira le Seigneur ? Ça, je ne peux pas répondre pour lui. Mais je peux vous dire une parole que plus d'une personne a entendue dans toutes sortes de contextes. Des contextes très variés, mais dont la forme me paraît essentielle pour dire ce qu'est la miséricorde de Dieu, ce qu'est vraiment l'amour de Dieu. Cette parole, c'est « Je t'aime quand même ». Et je lui dis, parce que moi-même, je l'ai entendu il y a plus de 15 ans, 17 ou 18 ans, j'étais en train de célébrer la messe au moment de la consécration de façon très distincte, la voix du Seigneur en moi, peu importe la raison, mais ça finissait comme ça. « Mais je t'aime quand même ». Et l'autre jour, il y a un lecteur de mes homélies, qui me l'a raconté. Lui, il avait un autre contexte. Il avait une apparition de Jésus à côté de lui pendant la messe, et qui lui avait dit avec la même tendresse, « Je t'aime quand même ». À tant d'entre nous, le Christ peut dire, quelle que soit la raison, quel que soit le contexte, mais toujours avec la même attention, la même tendresse, le même amour, « Je t'aime quand même ».